Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne veux vanter que de la croix où mon en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. En chantons-le.
Oui, tout en moi veut t'adorer. En moi veut t'adorer.
Esprit à mes corps.
Tout en moi veut t'adorer.
Ce n'est plus moi qui
vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière.
En moi veut t'adorer.
Tout en moi veut t'adorer.
Oh, chante-le.
Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer.
Amen. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi, divin créateur. Rien n'est trop grand pour toi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien.
Tu es ma force et ma vitalité. t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi.
Qu'importe mes peurs.
Qu'importe mes peurs, je me confie en toi. En toi. Divin Créateur, rien n'est trop grand pour toi. Pour toi. Car tu es puissant, je ne manque. Jésus-Christ est roi, il est roi, il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi.
aussi Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins. Mais nous pouvons déclarer Abba Père par l'Esprit de Dieu en nous. Amen.
Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre.
jamais tu seras. L'agneau sur le trône,
l'agneau sur le trône,
je fléchis le genou,
je fléchis le genou
pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras,
à jamais tu seras
l'agneau sur le trône,
l'agneau sur le trône,
je fléchis le genou,
je fléchis le genou pour t'adorer toi seul.
À jamais, à jamais, à jamais, à jamais
tu seras, à jamais tu seras.
Le genou,
je fléchis le genou pour t'adorer toi seul.
Déclarons, déclarons, à jamais tu seras,
à jamais tu seras
l'agneau sur le trône,
l'agneau sur le trône.
Je Jésus, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. notre être. Oh Jésus, remplis le temple que nous sommes. Jésus, renverse l'état, renverse tout ce qui n'est pas de toi. Oh, nous voulons t'adorer toi seul. Jésus, nous te réclamons, nous te réclamons. Jésus, Jésus, aucun autre nom, Seigneur. Jésus, Jésus, qui qu'un homme d'adoré.
Partager un temps de scène.
Il a fallu que Jésus porte à la croix toute la colère du monde pour que nous puissions connaître la douceur dont parlait Bernard. Nous allons partager la scène pour nous souvenir justement de tout ce que Jésus a fait pour nous. Et pour ce temps de partage et de communion, je vous propose le texte des disciples d'Emmaüs que l'on trouve dans Luc 24. Alors, je pourrais vous le lire, il est un peu long. Et de toute façon, je préfère vous le raconter à ma façon. Alors, il s'agit donc de deux copains qui marchent sur un chemin. Et en fait, ils sont hyper déçus suite à la crucifixion de Jésus. Et ils parlent, ils en parlent sur le chemin. Ils se posent plein de questions sur le déroulement de ces derniers jours. Ils ne comprennent pas. Ça ne s'est pas du tout passé comme ils pensaient. Chemin faisant, Jésus les rejoint. Mais les disciples ne le reconnaissent pas. Alors Jésus écoute leur incompréhension, leurs attentes déçues, leur tristesse, parce qu'ils sont très tristes. Les disciples disent même, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Alors Jésus reprend les Écritures, il leur explique d'une façon, d'une autre, ce qui s'est passé. Mais malgré cela, les disciples ne le reconnaissent pas. Arrivé à destination, Jésus semblait vouloir continuer son chemin. Mais les disciples le retiennent. Elle invite à leur table. Je vais vous lire les versets 30 à 32. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Alors j'aimerais brièvement reprendre cette histoire pour qu'on puisse l'actualiser et nous l'approprier. Nous sommes ici rassemblés les chrétiens du Colombier. En fait, nous sommes les chrétiens du XXIe siècle, Mais que ce soit à Angers ou ailleurs, du reste, dans le monde entier, en tant que chrétiens, nous cheminons dans notre foi. Nous nous encourageons les uns les autres et nous nous soutenons dans les épreuves. Et en même temps, nous nous posons aussi beaucoup de questions parfois sur ce qui nous arrive. Nous espérons parfois que Jésus fasse ceci ou cela. Et ça nous arrive aussi d'être hyper déçus parce que cela n'est pas arrivé comme nous l'avions espéré. Jésus nous accompagne sur ce chemin de vie. Il écoute nos déceptions, nos attentes déçues, notre tristesse. Il nous explique aussi les Écritures dans nos temps de prière, de culte, de méditation. Et il se révèle à nous dans des moments inattendus, autour d'un repas par exemple. Alors, avant que nous prenions ce pain et ce fruit de la vigne, je vous propose de prier. Pendant que nous prenons ce repas, ce pain qui représente ton corps brisé, ce fruit de la vigne qui représente ton sang versé pour nous, je te prie que nos yeux s'ouvrent sur la puissance de l'œuvre de ta croix. Dépouillés de toutes nos attentes, toutes nos illusions, que nous puissions goûter à la réalité de ton sacrifice pour nous. Que nous puissions te reconnaître à nos côtés. Que nous puissions te reconnaître sur notre chemin de vie. Et que nous puissions laisser nos cœurs brûler pour toi, parce que tu es là, quelles que soient nos circonstances et quelles que soient nos incompréhensions. Amen.
Ton corps brisé pour moi, ton sang versé pour moi, c'est la part qui me revient, c'est la part qui me revient. Ton corps brisé pour moi, ton sang versé pour moi, c'est la part qui me revient, oui, la part qui me revient. Je suis à toi, tu es pour moi, tu es la part qui me revient, la part qui me revient. Je suis à toi, je suis à toi, tu es pour moi, tu es la part qui me revient, oui, la part qui me revient. Ton corps brisé, ton corps brisé, sang versé pour moi, c'est la part qui me revient, la part qui me revient. Oh, son corps brisé pour moi, ton sang versé pour moi, c'est la part qui me revient, la part qui me revient. Je suis à toi, je suis à toi, tu es pour moi, tu es la part qui me revient, la part qui
sang versé pour moi. Tu es la part qui me revient, la part qui me revient.
Oh, je suis à toi,
je suis à toi. Tu es pour moi, tu es la part qui me revient, la part qui me revient.
Tu es la part qui me revient,
tu es la part qui me revient.
Tu es la part qui me revient,
la part qui me revient.
Ce message que je voulais partager ce matin, je ne sais pas trop comment il va être, pour être très honnête, parce que je n'ai jamais donné. Et il est venu parce que je relisais le livre des Actes, qui est un livre qui ne m'intéresse pas forcément beaucoup. Je suis plutôt historien quand je lis la Bible. Alors, l'Histoire des Actes, c'est un livre, bien sûr, d'histoire, mais c'est plutôt un livre, c'est comme une bande dessinée presque. Il y a tellement d'actions, il y a tellement de choses qui se passent. Et je relisais les cinq premiers chapitres, et je me suis dit, mais on a... J'espère que j'ai bien amené mon truc, mais je crois qu'on n'a pas fini dans nos églises, dans le monde, de vivre ce que le Seigneur veut qu'on vive. On est vraiment encore au bord. Et j'aimerais ce matin qu'on se mette à la place, on va prendre le texte tout à l'heure, mais j'aimerais ce matin, ça va peut-être pas être facile, mais qu'on se mette à la place des pharisiens et des sadducéens qui étaient dans le livre des Actes. Donc vous connaissez ces gens-là, les chefs religieux, les prêtres, etc. Et il va y avoir peut-être ce matin un petit peu un face-à-face avec tout ce qui s'est passé dans les premiers livres des Actes et la réaction de ces gens. Et j'aimerais qu'on se mette à leur place avec compassion, mais peut-être de se dire, parce qu'ils ont été malmenés, ces gaillards, les sadducéens, les pharisiens, ils n'ont rien vu venir quelque part, ça n'a pas été évident pour eux. D'avoir compassion pour eux, mais de se dire en même temps, se poser la question, mais est-ce que souvent, quand on lit le livre des Actes, il faut reconnaître qu'on se place souvent du côté des disciples? On se place souvent du côté de Pierre, Jean. On se place souvent du côté de ceux qui ont réussi quelque part. Mais j'aimerais ce matin qu'on s'identifie et qu'on se mette à la place des pharisiens et des sadducéens. J'étais au Togo il y a quelque temps. Il y avait une église de réveil. C'est un bon ami, le pasteur. Et il m'a dit, écoute, j'aimerais bien t'inviter pour que tu puisses parler réveil. J'ai dit, ouais, d'accord. Déjà, quand quelqu'un me dit ça, en général, je suis assez mal à l'aise. Donc, c'est une église de réveil. Et il y avait une louange exceptionnelle. Ce qui me gênait un petit peu, c'est que les deux directeurs de louange faisaient de la compétition, ça se voyait sur l'estrade. Donc, ça me gênait un petit peu. Moi, je me disais, mais ils sont en train de faire de la compétition là-dedans. J'ai dit, où est le Seigneur? Bref. Et puis, il y a un culte, vraiment, j'aurais pu en pâlir en tant que prédicateur. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur apporter à ces amis-là? Et puis, je leur ai dit, écoutez, je vous propose de vous raconter une petite histoire. Et je leur ai raconté une histoire que j'ai vécue il y a bien longtemps au Togo, où j'étais jeune, à Jeunesse en mission. Et j'étais conduit avec un frère à laver les pieds d'un pasteur burkinabé qui avait commis l'adultère dans sa fédération, qui s'était repenti. Mais en commettant l'adultère, il avait attrapé le sida. Et ce monsieur, il est mort du sida avec toute sa famille. Sa femme a été contaminée. Et j'ai raconté comment on avait lavé les pieds de ce monsieur, parce qu'il était tellement désespéré. Il avait été foutu dehors de sa fédération d'église. Il était atterri à Jeunesse en mission. Il avait rencontré un pasteur américain qui avait eu pitié de lui. Il lui avait donné une église. Et quand j'ai raconté cette histoire-là, il y a eu un silence de mort dans l'église. Et ils m'ont regardé vraiment pas content. Et je me suis dit, ils ne sont pas prêts à vivre ça. Quand j'aurais raconté ça, je me suis dit, ils n'étaient pas contents avec moi. Hein. Pasteur, il m'a dit, non, il ne faut pas, vas-y. Et je dis, j'allais leur dire quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Et j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas prêts à vivre ça. Et puis donc ce pasteur, il était au Niger d'ailleurs, avec Jeunesse en mission au Niger. Il est rentré avec sa famille très malade. Il a été enterré au Burkina. Et à ses obsèques, il y avait quelques amis morts. Vous voyez, quelqu'un du sida, vraiment, il n'était pas séropositif. Son corps était abominable. Et il n'y avait absolument aucun frère et sœur de sa fédération d'église qui était aux obsèques. Et dans ce sens-là, j'aimerais vous dire, et c'est pour ça que j'ai introduit le message, je pense qu'on a d'autres, on a encore des pages à vivre. Lorsque j'ai lu donc le livre des Actes, on voit que, c'est comme si je le lisais pour la première fois, on voit quand même, essayons de nous mettre à la place des gens, de tous les gens, des disciples et des pharisiens. Franchement, c'est un livre, c'est quand même une bombe ce livre, hein. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais je me suis dit, mais Denis, est-ce que j'aurais pu tenir? En voyant tous ces actes autour de moi, est-ce que j'aurais pu tenir en tant que chrétien? Est-ce que j'aurais pu tenir dans mes émotions, mais aussi en tant que bon religieux qu'on peut être, hein, parfois? Parce qu'on voit que Jésus est mort, c'est la fin du ministère de Jésus. Il est ressuscité et il est remonté au ciel. Et ensuite, il y a eu sa mort, sa crucifixion, sa résurrection. Et il apparaît au premier chapitre des Actes pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il apparaît. Et je me suis mis à la place des Sadducéens, des pharisiens, et restons à leur place. Mais ces gars-là, ça a dû être terrible pour eux. Ils se sont dit, mais ce gars-là, on pensait, ce Jésus, qu'on s'en était débarrassé. Vous voyez? Et tout d'un coup, il est là, il revient, et il apparaît pendant 40 jours, ressuscité. Et les gens, donc, c'est une preuve irréfutable. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça a dû être un choc pour eux? Et souvent, je me dis, on prie souvent pour le réveil. Vous voyez, on dit, on aimerait le réveil dans l'Église. Mais je vous dis très sérieusement, et je m'inclus dedans, je ne suis pas sûr qu'on serait prêt à vivre les choses, peut-être que le Seigneur voudrait qu'on vive. Vous voyez? Je voudrais vous donner un petit peu certaines choses, une liste des choses comme cela. Et donc, il y a en même temps un temps de désorientation. Parce que même les disciples sont désorientés pendant ces premiers chapitres des Actes. Alors les Sadducéens, les pharisiens, alors là, ils sont complètement bouleversés. Heureusement, Jésus, pour eux, va remonter au ciel. Le Saint-Esprit va être donné à la place de Jésus. Donc quelque part, les pauvres chefs religieux, ils vont être contents pendant un moment parce que Jésus n'est plus là. Mais la puissance du Saint-Esprit va être là et ça va déranger encore. Mais là, il y a un temps de désorientation. Pourquoi? Parce que quelque part, les disciples se posent des questions et ils voient Jésus et ils disent à Jésus, mais Seigneur, est-ce en ce moment-là que tu vas rétablir ton royaume d'Israël? On voit effectivement aussi les disciples d'Emmaüs, ils vont sur le chemin d'Emmaüs, ils sont sur le chemin d'Emmaüs et eux aussi, ils sont là, ils sont absolument perdus. Et c'est le Seigneur qui leur rappelle les Écritures et ils ont une herméneutique, une interprétation nouvelle des Écritures par le Saint-Esprit, parce que Jésus parle et leur dit, mais ces Écritures, c'est de moi qu'il parle. Il y a un temps de désorientation dans les premiers livres des Actes et il y a en même temps un temps de gloire. Et la question qu'on pourrait se poser dans les temps actuels, parce que je veux ramener ce message aussi au temps actuel, serions-nous prêts à reconnaître les choses de Dieu lorsqu'elles arrivent? Donc il y a l'ascension de Jésus, il y a la venue du Saint-Esprit sur tous. Ça, c'est intéressant. Et puis, il y a les apôtres. Mais mettez-vous à la scène. Il y a Jean. Il y a Pierre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de réinterpréter des millénaires d'écriture et de Talmud. Ils sont en train de dire aux gens qui sont religieux, depuis des millénaires, les juifs, en fait, depuis Abraham, depuis Isaac, depuis Jacob, depuis les prophètes, vous n'avez pas compris qu'au travers de ces écritures, c'est du Christ qu'on parlait. Vous imaginez le choc? C'est comme si on irait dans nos écoles bibliques, dans nos facultés de théologie, et qu'on dirait aux professeurs, aux enseignants qui sont là depuis des années, on irait à Vaux-sur-Seine, on irait à la faculté de Montpellier, on irait à la faculté de Strasbourg, et on dirait, mais vous savez, ce que vous enseignez depuis des années, il manque des éléments très importants, et plus qu'un peu. Et ce que les disciples disent aux théologiens de l'époque, qui sont férus de théologie, il y a une personne centrale que les textes parlent, dans l'Ancien Testament, dans le Talmud, c'est la personne de Jésus-Christ. Mais c'est un choc, mes amis. Il y a un réveil qui arrive, et on va dire l'église institutionnelle, c'est pas l'église, c'est la synagogue, elle est secouée de fond en comble. Vous voyez? Et vous savez, lorsqu'il y a un réveil, moi j'en ai pas vécu, mais j'ai lu dans les livres, il y a un temps de désorientation, parce qu'on ne sait plus trop ce qui se passe. Vous voyez, on est en train de réapprendre les choses ou de redécouvrir les choses. Donc l'apôtre Pierre, ce qu'il fait en... Là, j'utilise un terme un petit peu compliqué pour paraître intelligent. Il est en train de bousculer ce qu'on appelle l'herméneutique des chefs religieux. Mais ils disent, mais en fait, vous savez, la personne qui est remontée au ciel, eh bien, dans Acte 3, verset 13, Pierre dit, le Dieu d'Abraham... Ça remonte à 2000 ans, hein, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos ancêtres a révélé la gloire de Jésus-Christ. Et les Sadducéens, les pharisiens, les prêtres, ils ne peuvent pas imaginer ça. Et puis en même temps, Pierre, bah, vous savez, Pierre, en même temps, Pierre, oh là là, c'est vraiment intéressant. Hein. La puissance de la parole de Pierre et des actes de Pierre est absolument incroyable. Mais en même temps, je me dis pourquoi. Il n'a plus rien à perdre, hein, parce que tout le monde sait quand même qu'il a renié Jésus trois fois. Donc il est crucifié, lui. Il n'a rien à perdre, c'est pour ça que la gloire, je pense, à mon avis, se manifeste dans sa vie. Et Pierre, il est en train de dire aussi que le livre de Joël, eh, les amis religieux, les amis, ben, il faut le relire, parce que le livre de Joël... Il est en train de réinterpréter la fin du livre de Joël et il dit dans Joël 3 que mon esprit sera révélé et manifesté sur toute chair. Toute chair. C'est un peu compliqué, hein, parce que ces gens-là, ils n'ont pas d'éducation. Vous voyez? Et pensez à aujourd'hui, comment il peut y avoir des confrontations dans l'Église. Vous voyez? Quand la théologie confronte, quand le théologien confronte l'homme simple qui n'a pas d'éducation, mais où il y a la manifestation et la puissance du Saint-Esprit. Et puis là, Pierre parle aussi, mais aux Sadducéens et aux pharisiens, mes amis, il faut quand même vous dire, vous n'étiez pas seuls, mais vous avez participé activement à la crucifixion du Sauveur. Vous voyez? Donc le livre des Actes, c'est un livre formidable du point de vue des disciples. Positif, mais pour les autres, c'est quand même une écharpe dans la chair. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce que j'aimerais, j'espère que vous comprenez aussi ce que j'aimerais apporter, c'est que, encore une fois, on peut se placer facilement du côté des disciples. Bon, allez, bien sûr, les pauvres sadducéens, ils n'ont pas compris. Vous voyez? Les pauvres pharisiens, mais ils n'avaient pas la révélation. Mais nous, on se met dans le camp des disciples. Mais est-ce qu'il y a quelque chose là aussi? On verra tout à l'heure. Est-ce que là aussi, on ne doit pas réfléchir à notre position aussi en tant que chrétien? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à apprendre? Des disciples sans instruction, comme je l'ai dit, l'institutionnel religieux est bouleversé. Le livre des Actes est à peine soutenable. Hein. Il est dit dans Actes 2, verset 12, les gens disent, ils n'en revenaient pas. C'est impressionnant, il y a des guérisons, il y a plein de choses qui se passent. Il est dit après, mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire? En fait, on n'arrive pas à donner des réponses dans tout cet élément spirituel impressionnant qui se passe en quelques années. Et puis il y en a qui sont déçus parce qu'ils attendaient effectivement Jésus. Donc là, il y a deux systèmes qui rentrent en collision. Et là, il faut être sympa avec les chefs religieux, vraiment sympa. Oui, vraiment. Parce que c'est un peuple qui est unique. Et là, il ne faut pas faire le jeu de la théologie du grand remplacement. C'est parce que l'Église existe qu'Israël existe. C'est parce que l'Église existe qu'Israël existe. Et dans les millénaires de l'histoire, là, l'Église a été tentée de dire maintenant, ils ont crucifié le Christ, on a tous crucifié le Christ, on va leur faire payer. C'est parce que, pardon, Israël existe que l'Église existe. Je ne le dis pas encore pour le micro, ça c'est mon problème, je mélange souvent les termes. C'est parce que Israël existe que l'Église existe. Alors ce peuple est unique, il est pétri de traditions millénaires, peuple juif. Il est très original, et pendant toute l'histoire dans l'Ancien Testament, les peuples ont été souvent jaloux de ce petit peuple qui réussissait, où on voyait confusément, ou d'une manière vraiment parfois plus claire, la main de Dieu. Ils sont conscients de leur messianité. À cette époque-là, ils ne reconnaissent pas le Christ. C'est un peuple, il faut dire, qui est très persévérant. Ce peuple de sadducéens, de chefs religieux, de pharisiens, c'est un peuple aussi qui a été en souffrance. Ils ont été humiliés plusieurs fois. Humiliés déjà parce qu'ils sont occupés par les Romains. Et puis, ils sont aussi imprégné de persécutions du temps de Babylone et d'autres, et de diaspora déjà à l'époque. Un peuple en même temps qui est un peu contradictoire, parce qu'il vénère ses prophètes, ceux qui sont morts il y a 600 ans, 700 ans, mais ils ont oublié qu'ils les avaient persécutés à l'époque aussi. Et puis il y a le second système qui rentre en collision dans ce livre des Actes, c'est justement tous ces gens qui se convertissent. Il y a la Pentecôte, 3000, 5000 après. Et donc ces deux systèmes qui se rencontrent, qui sont difficilement mélangeables à cette époque-là, on dit à l'époque qu'on se réunit au temple et aussi dans les maisons. C'est pour ça que l'Église n'est pas simplement dans les maisons ou qu'au temple. Vous savez, parfois on a toute cette publicité, on déchire les deux. Donc on se réunit au temple, on se réunit dans les maisons. Il y a des personnes qui guérissent miraculeusement. C'est quand même pas évident, ça. Enfin, je dis c'est beau, mais c'est choquant, je dirais. Voilà la puissance de Dieu comme ça. La plupart n'ont pas de diplôme. De ce côté-là, ils n'ont pas trop d'éducation non plus. Ils s'investissent en maîtres de la loi, mais en fait, ils s'en moquent du titre. Ils sont en train de dire, mais voilà, Joël parle de ça. Ils sont en train de revoir les textes, les Écritures, et Pierre prêche devant tous et devant les religieux. Il a dit, mais les amis, ouvrons les yeux. Ces textes parlent de ça. Beaucoup de ses disciples sont pauvres. Pierre, il dira, Jean, Pierre, je crois, je n'ai ni or ni argent, Pierre. Et puis, il y a une très, très grande solidarité sociale. Il y a une diaconie qui devient importante et les gens ne sont pas négligés. Et voilà, on arrive au texte. Ça, c'était l'introduction. Alors, la réaction justement des pauvres amis, j'ai dit des amis, parce que moi je me mets dedans, des sadducéens, des pharisiens. Acte 5, versets 33 à 40, on va l'afficher. Après toutes ces choses qui se passent, ces miracles, ces guérisons, ces confrontations, ces réinterprétations de la lecture et du Talmud et de l'Ancien Testament, furieux de ces paroles, c'est les chefs religieux, il voulait les faire mourir, donc il s'agit des disciples. Mais un pharisien nommé Gamaliel, et ça va être le point d'orgue du message, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva devant le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Et puis Gamaliel leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps parut un homme qui s'appelait Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. » Et puis Gamaliel continue et il dit, après lui, il y a un autre gars qui s'appelait Judas le Galiléen, donc ce n'est pas Judas Iscariote, c'est l'autre, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et laissez-les aller. Et Gamaliel dit, en parlant des disciples, « Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. » Et il dit donc au Sanhédrin, « Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Intéressant, hein? Là, il y a quelques leçons. Et je crois que là, on peut s'inspirer de ce Gamaliel. Il y a une grosse tension là entre ces deux groupes, entre les disciples, ceux qui se sont convertis. Bien sûr, les disciples, c'est le leadership. Hein, les autres y suivent encore à cette époque-là. Et puis, il y a les chefs religieux. Et là, c'est vraiment une question de mort. Ils veulent les mettre carrément à mort. Et puis, il y a ce pharisien-là, au milieu, Gamaliel, qui est en train de leur donner quelques leçons d'instruction, d'avertissement, de vigilance. Et en fait, il dit ensuite, il se rangèrent à son avis, ils ont appelé les apôtres, ils les fouettèrent ou ils les battirent de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Bon, comme vous le savez, ils ont continué de parler au nom de Jésus. Et puis après, les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mes amis, j'ai l'impression que de tout temps, mais particulièrement en ces temps, nous avons besoin de Gamaliel. Vous voyez ? Nous avons besoin de gens qui sont comme des Gamaliel. Des gens, et j'aimerais tirer quelques instructions peut-être de ce texte. On vit des temps, actuellement, des événements qui se succèdent très rapidement dans le monde. Là, je ne parle pas forcément de temps religieux, de temps dans nos églises, mais dans le monde, les choses vont très très vite. Il y a des guerres, il y a de l'inflation, il y a le climat qui se détraque, qu'on croit au réchauffement climatique ou pas. En tout cas, on a ça en pleine face. Il y a des crises sociétales, souvent, en Europe en tout cas. Mais aussi, par exemple, on voit que l'Afrique de l'Ouest et centrale est déstabilisée. On voit que le niveau de persécution des chrétiens, elle n'a jamais été aussi élevée dans le monde. On est dans un monde instable où tout bouge très très vite. On a l'impression que les événements, on n'a pas le temps de les saisir et les choses vont très vite. Et puis, on observe aussi, parfois, dans nos églises, pas partout, on a une peur de la contamination spirituelle et on se dit, mais tout se détraque. Le climat se détraque, le Seigneur va revenir. On a une lecture eschatologique, c'est une lecture de la fin des temps à notre sauce. Et on est un petit peu parfois sur le repli. Vous voyez ce que je veux dire ? Le repli. On peut être dans l'attente, ou attendre dans l'attente, un petit peu que le Seigneur revienne. Et il y a dans des milieux comme ça, il y a un climat d'attente eschatologique immédiate. Encore une fois, Jésus avait dit à ses disciples, vous ne connaissez pas les temps, seul le Père connaît les temps. C'est sûr qu'on est dans des temps bien avancés, c'est pire. On voit aussi, là je parle pour nous, et je pense pour la société, on est dans une ambiance où tout le monde a envie d'en découdre. Vous avez remarqué ça ? Hein ? On veut séparer, on a des clans, on veut déchirer. On le voit dans les saccages, dans la société civile, dans les saccages dans les églises, dans les saccages dans les mosquées. Vous voyez, tout est très binaire, tout est très coupant. Vous avez remarqué ça ? Autour de nous, hein ? Et les gens ont envie d'en découdre, c'est-à-dire ils ont envie de se défaire. On veut se défaire du gouvernement, on veut se défaire de l'Église, on veut se séparer, vous voyez ? On voit ça, encore une fois, en Afrique de l'Ouest, où tout se déchire un petit peu, tout se détricote. Il y a aussi, depuis 3-4 ans, une fièvre du complotisme. Le complot est parmi nous. Le complot est autour de nous, n'est-ce pas ? Hein ? Et je crois que les chrétiens, je crois que là, on doit apprendre de quelque chose, et je vais revenir à Gamaliel tout à l'heure. On doit apprendre par rapport à cela. On est aussi dans une ambiance qu'on appelle un mot à la mode, une ambiance binaire. Qu'est-ce que ça veut dire être binaire ? C'est-à-dire que c'est noir ou blanc, il n'y a pas de milieu. Vous voyez ? C'est très fort dans les milieux religieux, c'est très fort dans les milieux politiques aussi. Vous voyez ? Qu'est-ce que nous pouvons apporter en tant que chrétiens ? À la lumière du contexte de Gamaliel, pour avoir peut-être des esquisses de choses qui sont différentes. On voit aussi qu'il y a un raz-de-marée d'informations, de contenus sur les réseaux sociaux qui souvent, mes amis, usurpent, volent notre discernement et nous empêchent d'avoir un recul nécessaire. Vous êtes d'accord avec ça? Vous le pratiquez? Pas évident. Il y a une tendance à sauter sur tout ce qui bouge. Partout. Pas de recul, on est épidermique, on réagit très fortement. On voit aussi que on est dans une société qui est devenue vraiment une société de slogans. Par exemple, j'utilise le mot amour. On parle beaucoup d'amour, on parle beaucoup de pardon, mais ces mots peuvent venir des concepts qui sont vides de sens et d'existence dans nos vies personnelles. C'est très subtil. Lorsque l'amour pour Dieu et notre prochain est un concept absent de pratique. Vous voyez, ça peut être très subtil. Il y a aussi, moins maintenant, mais il y a pour masquer le vide dans nos églises, il y a une floraison, une avidité, une soif, comme disait, je crois, l'apôtre Paul, de vouloir des nouvelles méthodes innovantes pour l'église, pour la révolutionner. Vous voyez ? En d'autres termes, on essaie de changer, nettoyer la coupe, mais on ne change pas l'intérieur. Vous voyez ? Souvent, quand il y a un vide, il y a un recours à une forme de supermarché, de nouvelles méthodes pour que l'Église soit plus efficace, pour que l'Église se développe plus, pour que l'Église se multiplie, pour que le leadership soit meilleur, souvent à l'encontre d'un changement personnel et profond dans nos vies. Lorsque l'avidité des nouvelles méthodes pour l'Église masque l'appel à une vie personnelle changée plutôt que de changer l'extérieur de la coupe. Et puis, pour revenir au texte, ça va, je ne vous plombe pas trop là. Eh bien, il y a aussi les pedasses qui se lèvent, vous voyez. Il y a des Judas le Galiléen, qui sont des personnes souvent charismatiques, qui sont des personnes qui ont du bagou, qui ont du discours, mais qui sont aussi des étoiles filantes. Et Gamaliel dit, mais attendez les gars, il dit au chef religieux, il y a toute une effervescence, il y a le livre des Actes des Apôtres, il y a les disciples, il dit, attention, calmons-nous, il y a eu Todas, il a levé 400 personnes, il y a eu Judas le Galiléen, puis ils ont disparu ces gens-là. Gamaliel pousse le leadership religieux de l'époque à prendre du recul, du discernement et de l'amour aussi. Et je rappelle que Gamaliel, il fait partie de ses pharisiens. Il ne fait pas partie de ses disciples. Voyez, il arrive à vivre dans les deux contextes. Voyez, il arrive à tenir le recul dans les deux contextes, dans le groupe des disciples comme dans le groupe des pharisiens. On voit aussi souvent, alors là, ça c'est de tout temps, mais quand même, c'est quelque part une avidité, une soif profonde de rentrer dans l'appel de Dieu, mais de ne pas être chrétien. Vous voyez, l'appel de Dieu est devenu une idole dans nos vies. Rentrer dans le ministère, prophète, apôtre, enfin, je ne sais quoi, c'est devenu presque une idole. Et il y a du vide derrière, vous voyez. Il y a du vide derrière. Et effectivement, là, en tout cas, on peut leur donner une belle médaille aux disciples. Les disciples ne cherchent pas leur ministère. Il y a des signes, des miracles, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'éducation. Ils sont quelque part les nouveaux maîtres de la loi, mais ils s'en moquent, vous voyez. Et là, les gens les suivent. Donc, nous nous plaçons souvent du côté des disciples. Moi, quand j'ai lu le livre des Actes, plusieurs fois, je dis, moi, je suis disciple. Hein. Je dois être comme Pierre, c'est sûr. Mais peut-être moins de l'autre côté, un petit peu. Voilà, des signes d'une religiosité qui est subtilement dissimulée. Quand les miracles se vivent ailleurs que dans notre Église, ou quand nous ne vivons pas des miracles, mais qu'on voit que notre ami, le Seigneur lui dit pour des miracles, eh bien, comment nous bénissons ces choses. Quand Dieu lève des personnes dans nos églises, dans nos milieux, que nous estimons pas légitimes. Quand Dieu lève des personnes que nous n'estimons, on va le dire en secret, pas légitimes. Et les Sadducéens, les pharisiens, ils disent, ces disciples, ils sont pas légitimes. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. C'est pour ça que quand on prie pour le réveil, c'est ça qui se passe, en fait. Il y a des secousses, il y a des chocs entre les relations. Il y a des chocs spirituels. Quand Dieu lève des personnes plus jeunes que nous, à moi, jeunesse en mission, j'ai pris plusieurs fois des claques. Hein. Des gens, au début, je les ai formés comme des disciples. Et maintenant, mais waouh, quel panache, quel panache. Eh bien, je suis content. Mais j'ai appris à le vivre, ce n'est pas évident. Donc il y a de la jalousie, de la compétition, etc. Et quelque part, si nous aspirons à un changement, et je crois qu'il y a des, je crois qu'on a, il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit vivre. On pourrait dire le livre des actes, mais pas seulement dans l'Église, mais dans la société. Alors il y a ce Gamaliel, et je terminerai le message avec ceci. Gamaliel, sa phrase qui a du poids, et je pense une phrase de discernement pour nous dans les temps qu'on vit, ne courons pas le risque de combattre contre Dieu. Amen. Peut-être qu'il faut réviser nos positions, hein, sur nos Facebook, je ne sais pas, sur l'écologie, je ne sais pas quoi, sur le gouvernement. Vous voyez ? Il y a peut-être du recul à retrouver là, sur l'Église, sur les musulmans, sur le maire, sur la société. Vous voyez ? Parce que ce que j'entends souvent, ce que les gens me disent, mais nous les chrétiens, on ne fait pas la différence. On réagit comme les autres. Ouais, des coups très épidermiques. Et là, vraiment en toute humilité, je me dis, mais Seigneur, combien de fois je t'ai combattu. Avec, en croyant avoir le bon drapeau, hein, vraiment. Et je me suis dit, waouh, des fois je suis franchement un peu pharisien, quoi. Hein. Je suis franchement... un peu sadducéen. Des fois, je suis disciple, mais des fois, je suis un peu dans les deux. Et ce Gamaliel, donc, il dit, les gars, faites gaffe, ne risquons pas, ne courons pas le risque de combattre contre Dieu. J'ai envie de dire aussi, ne jugeons pas, afin de ne pas être jugés. Prenons du recul et de la distance. N'ayons pas de préjugés trop précipités ou trop hâtifs dans ce qui est autour de nous. Là, quand je vous parle, je ne parle pas de l'Église seulement, je parle de l'Église et de la société. On voit des trucs fous, hein. Ça ne sera pas le sujet, on ne parle pas de politique. Mais quand tu vois des gens dans un musée qui balancent une tomate sur une œuvre d'art parce que les changements pour que l'écologie soit, notre terre soit sauvée, vont pas assez vite, le rapport il est où là ? Enfin, des choses bizarres. Identifions aussi, il n'en parle pas Gamaliel, mais le contrôle dans nos vies. Le contrôle dans nos vies. Si nous voulons avoir la gloire de Dieu, on ne peut pas avoir la gloire de Dieu, mais si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut vraiment passer par ce déshabillement. Rien ne nous appartient, mais le Seigneur veut faire beaucoup de choses au travers de nous, à condition qu'on laisse notre contrôle. Moi, quand je prêche, je regarde souvent Eliane et je discute souvent avec elle parce qu'elle me dit, c'est bien ce que tu dis, hein, mais est-ce que c'est la même chose à la maison ? Vous voyez ? Je suis vraiment attentif à ça en ce moment. Notre vie cachée en Christ, qu'est-ce qu'elle révèle ? Parce que personne ne la voit. Vous voyez ? Et là aussi, c'est une puissance parce que les gens sentent finalement quand on est en accord, tu vois, intérieur-extérieur, dans nos petites habitudes. On est souvent militant pour changer les choses extérieures. Militant, j'utilise ce terme, s'il est presque politique. Mais il est aussi chez les chrétiens, malheureusement, trop souvent. Souvent militant pour changer les choses extérieures, le sommes-nous pour réformer nos vies intérieures que personne ne voit si ce n'est Dieu. Il y a aussi, on voit particulièrement aussi, il y a beaucoup de slogans. Par exemple, je vous ai entendu parler du wokisme. Le wokisme, c'est un mouvement qui peut être très, très digne quelque part. C'est un mouvement pour défendre des minorités. Et on parle beaucoup de vérité. La vérité, on veut la vérité, on veut la justice. Mes amis, nous sommes souvent, nous-mêmes, en tant que chrétiens, en quête de vérité, mais est-ce que nous sommes en quête de sens ? Est-ce que notre façon de parler et de vivre la vérité a du sens ? Est-ce qu'il est humain ? Est-ce qu'il est humanisé ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il peut y avoir des gens qui manifestent avec des slogans très pointus, très, on le voit, hein, bon, voilà. On le voit parfois, le témoignage des politiques, on dit, mais franchement, les gens, ils sont à peine polis, ils n'ont pas de savoir-vivre, vous voyez. Et là, on est en quête de vérité, on veut la vérité, on parle la vérité, mais quand on regarde l'environnement de celui qui parle la vérité, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas d'humanité. Il n'y a pas d'amour, vous voyez. Et c'est là que Jésus a fait vraiment beaucoup de différence. Hein, il nous a aidés, il a aidé ses disciples. Je dis, les gars, quand Pierre voulait envoyer le tonnerre sur les pauvres disciples là-bas, il dit, bon, ok, Jésus lui a pas dit, mais dit, tu es avec celui qui dit qu'il est la vérité, mais n'en profite pas trop quand même, quoi. Hein, vivre avec humanité. L'exhortation de Gamaliel, on vit des temps particuliers. Je n'ai pas la réponse ce matin, hein, vraiment. Tout ce florilège d'événements autour de nous doivent nous amener à une posture positive, des postures positives qui sont utiles pour l'Église et la société. Voyez. Et je crois qu'il y a quelque chose de différent que nous pouvons apporter. Pourquoi? Parce que Jésus dit que nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, il ne peut pas être utile. Voyez. Et donc ce sel est à trouver dans toutes ces situations aussi, dans notre comportement, notre façon de faire. Là, je vous ai donné des éléments, j'espère, un petit peu actuels, d'accueillir, d'être vigilant, de prendre du recul, qu'on soit dans un camp ou dans un autre, de chercher le bien. Et Gamaliel était dans les deux camps. Il a dit à ses disciples-là, peut-être que Dieu est avec eux. Donc les gars, faisons attention. Et heureusement, ils ont été fouettés quand même. Hein. À l'époque, c'était quand même pas tendre. Les pauvres. Mais ils ont été libérés. Nous avons besoin de Gamaliel aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui ne sont pas forcément des tendres mous, qui ne sont pas des gens un petit peu, voyez, avec un discours tellement coincé ou tellement langue de bois qu'il n'y a rien à dire. Non, il a la pertinence, cet homme. Il a la pertinence. Et il a la pertinence parce qu'il a pris du recul sur les Teudaces, il a pris du recul sur les Judas galiléens. Et il dit, ces gens-là, ils suivent un gars qui s'appelle Jésus. C'est tout frais. Hein. C'est tout révolutionnaire à l'époque. On est habitué maintenant. On est presque institutionnalisé par le livre des actes. Mais le livre des actes n'est pas institutionnalisé au début. C'était des flammes de feu, c'était vraiment un courant, un vent de l'esprit qui arrivait là. Et Gamaliel dit, attendez, faisons attention. Oui, faisons attention. Alors, je crois que si nous sommes du côté des disciples, formidable. Mais nous avons un peu les deux en nous. Nous avons un peu les deux. Et effectivement, hein, le grand adversaire aussi, un des grands adversaires de Dieu, c'est la religiosité. Et la religiosité, ce n'est pas simplement chez les catholiques, ce n'est pas simplement chez les réformés, mais c'est aussi chez les évangéliques et chez les charismatiques. Et il y a des façons subtiles de vivre une religiosité qui est que peut-être nous ne la connaissons pas, mais les gens le voient autour de nous. Mais cette religiosité-là, elle doit être aussi repérée et elle doit être transformée pour qu'il y ait la vie de l'esprit, pas seulement pour l'Église, mais pour la société civile. Mais pour la société civile. On voit, et je termine avec ça, on voit un recul dans nos églises. Bon, je voyage un peu quand même, c'est pour ça que je le dis, hein, mais je n'ai pas la science infuse. Mais on voit un recul de l'engagement des intercesseurs envers le politique parce qu'on estime actuellement que le politique est corrompu. C'est un piège. C'est un piège. Parce qu'on a de la fumée, on a un écran de fumée. Et la vie d'intercession a baissé parce qu'on estime qu'il ne faut plus prier pour ces gens-là parce qu'ils sont trop corrompus. C'est le moment de le faire. Vous voyez comment les circonstances extérieures peuvent complètement changer notre comportement de chrétien rien que dans ce domaine-là. Et ça, c'est une partie. Donc que les Gamaliel se lèvent, que effectivement on puisse vivre ces choses aussi, peut-être dans nos églises. Je n'allais pas dire le mot réveil, parce que même le mot réveil, mes amis, est un mot qui est récupéré. Il est instrumentalisé. Il est instrumentalisé. Mais que le Seigneur fasse une œuvre de son esprit plus grande encore. Et on vit tous des choses, mais plus grandes aussi pour nous, pour l'Église et la société, et que nous puissions arriver à les embrasser, à les embraser. Hein, je pense Gamaliel, ça ne devait pas être très évident pour lui. Hein. Quand même, il était respecté de tous, mais il s'est dit, c'est pas écrit, hein, il s'est dit, mince, on a peut-être raté quelque chose, nous. On a peut-être raté quelque chose, là. Tu vois, des gens, des théologiens depuis des millénaires, puis il y a un jeune disciple effronté, Pierre, qui leur dit, les gars, les textes que vous avez enseignés dans les synagogues depuis des années, ben, ça parle de Jésus, c'est lui le Messie. Il est déjà là, le Messie. Ça a dû être dur, quand même, pour... je pense pour Gamaliel et pour les autres, comme Nicodème, j'imagine, qui se demandait comment il fallait naître de nouveau. Mais le Seigneur peut faire cette œuvre en nous. Il peut nous rendre ouverts, libres, et dans une nouvelle dimension de l'esprit, pour le vivre entre nous, avec les autres églises, mais aussi dans la société civile. Amen.